Je vous invite à écouter une conférence enregistrée au couvent des Carmes de Toulouse avec le frère Jean-Alexandre, hyperconnecté sans perdre son âme, d'après le livre « Dieu crève l'écran ».
Alors en effet, le thème des écrans est particulièrement actuel. Il y a beaucoup de publications, que ce soit d'ouvrages, mais aussi dans les magazines, je trouve, depuis le début de l'année 2025. On peut penser au rapport récent sur TikTok. Voilà, on commence à avoir des préconisations dans le domaine de l'éducation sur les réseaux sociaux numériques et notamment l'enjeu sur les adolescents. Mais il y a encore peu de réflexion sur les liens qu'il peut y avoir entre vie intérieure, vie spirituelle et écran. Et donc l'axe un peu de cet ouvrage, c'est justement de travailler cette question-là avec une conviction personnelle que nous avons en tant que chrétiens, et la tradition du Carmel l'honore particulièrement, une capacité particulière à parler, au fond, à donner des pistes d'une manière de vivre notre rapport aux écrans grâce à cette vie intérieure, à cette vie spirituelle qui nous est offerte à travers notre foi chrétienne. Comme c'était dit tout à l'heure, ce que je propose dans cet ouvrage, c'est une réflexion assez globale, donc qui ne donne pas des solutions toutes faites, prêtes à penser, qui cherche à mettre de la nuance et à assumer le fait que c'est une question complexe. Pourquoi c'est une question complexe ? Parce que nous vivons une révolution technologique extrêmement puissante, en peu de temps, et qui est toujours en cours. Nous commençons à voir l'intelligence artificielle qui se développe à travers la première génération, l'intelligence artificielle générative. Ce n'est que le début. Ça va aller crescendo, et vous voyez que c'est difficile de penser ce que nous vivons alors même que ça continue d'évoluer. Et en ce sens-là, la révolution technique que nous vivons, elle est différente des inventions techniques préalables que j'évoque dans le livre, par exemple l'imprimerie. L'imprimerie a été une révolution technique énorme. Thérèse d'Avila en a fait l'expérience et ça a été décisif pour sa vie spirituelle, parce que c'est grâce au livre qu'elle a pu découvrir l'oraison. Mais voilà, l'imprimerie, elle s'est un peu améliorée sur un certain nombre de décennies, mais c'était une invention. Aujourd'hui, on voit bien à travers les écrans, Internet, les smartphones, etc., qu'on est dans des chaînes d'innovation technologique qui se multiplient les unes les autres. Et il faut à la fois qu'on vive, qu'on pratique et qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, alors même que ça continue d'évoluer. Et dans un monde où, c'est le premier chapitre de cet ouvrage, nous faisons une expérience d'un temps qui va très vite, un temps qui accélère notre rapport à la vie et qui ne nous aide pas non plus à prendre ce temps de recul et de réflexion. Donc c'est une question complexe, il ne s'agit pas de trouver des solutions simples du style binaire en disant les écrans Internet c'est merveilleux ou c'est diabolique. Donc éviter ce que j'appelle ni la technophobie, la peur de la technique qui aurait tout renvoyé. Je cite par exemple dans le premier chapitre le texte de la petite Thérèse sur l'invention de l'ascenseur, voilà, qui au XIXe siècle va utiliser l'image de l'ascenseur pour parler de la vie spirituelle. Mais aussi ce qu'on pourrait appeler la technolatrie, qui est l'inverse, une forme d'idolatrie de la technique qui existe aussi aujourd'hui, notamment dans certains mouvements comme le transhumanisme, qui va transformer tous ces aspects dans quelque chose qui est l'ordre un peu d'une sorte de salut, de sauvetage. Donc entrer dans cette complexité, mais avec une lucidité, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, dont il me semble cette année, en tout cas en France, on commence à prendre un peu la mesure, c'est que eh bien, la technique n'est pas neutre. En tout cas, la technique dont nous parlons, ça dépend, mais ce que je veux dire par là, c'est que votre téléphone, notre téléphone, le smartphone, qui a l'air de rien, c'est un objet inerte a priori, dont on peut se dire, au fond, tout dépend de l'usage que j'en fais. Voilà. Donc c'est un type de discours qu'on entend, qui a sa part de vérité. Sauf que ce téléphone que vous avez acheté, etc., il a été pensé, en termes de contenu et même de design, pour vous rendre addict. Pourquoi ? Pour vous vendre davantage de produits. Bon, j'ai une formation commerciale, donc je sais ce que c'est. Et qui va travailler sur, au fond, nos passions grâce aux neurosciences, qui sont extrêmement intéressantes aujourd'hui. Donc, ils vont aller nous chercher dans des zones où on n'est pas forcément très fort. Donc, tout ça pour dire que voilà, on ne doit pas être naïf, et notamment dans le domaine de l'éducation, il faut être extrêmement prudent et extrêmement mesuré là-dessus, parce que ce ne sont pas des objets neutres. parmi d'autres. Voilà, d'autres le sont peut-être davantage, mais ceux-là, ils sont pensés avec un but, je dirais commercial, voire plus, qui vient nous chercher dans les zones délicates. Donc, un point qui me semble important par rapport à ça, vous voyez, c'est d'embrasser un peu la complexité avec lucidité et en même temps en cherchant à mettre de la nuance pour arriver à trouver comment intégrer ce monde d'Internet et des écrans dans nos vies. C'est un verbe que j'utilise assez facilement, cette idée d'intégration, mais intégration à sa juste place. Donc, ni rejet complet, ni absorption, mais intégration à sa juste place. Et quand on voit l'histoire des techniques, dans l'histoire des différents siècles, on voit bien que lorsqu'une technique arrive dans le grand public, pour faire simple, eh bien, il faut un temps de réception, d'accueil, d'intégration. Je prends l'exemple du téléphone. Lorsque le téléphone a été inventé par Graham Bell aux États-Unis, on a mis un petit peu de temps pour se demander à quoi ça allait servir. D'une part, on se rendait compte que c'était un peu bizarre parce qu'on entendait la voix de quelqu'un sans le voir. Bon, nous, ça nous semble évident, mais remettons-nous un peu dans cette expérience-là. Et un certain nombre de personnes, on pensait au début que c'était plutôt réservé à des réseaux un peu occultes ou qui veulent organiser des sales coups. Voilà. Et en fait, il a fallu tout un temps pour que ça rentre dans le domaine des familles, le téléphone. Vous voyez, donc il faut un temps de réception. Aujourd'hui, la réception se fait très vite. En quelques années, les smartphones ont intégré nos lieux de vie, etc. Mais nous n'avons pas pris le temps suffisant pour mesurer l'effet et l'impact que ça a personnellement et communautairement sur notre manière de vivre. D'où l'importance qu'il me semble concrète, en tout cas à mettre en œuvre, c'est des temps de déconnexion. Voilà, c'est un premier point. Je dirais concret, voilà pour tout le monde, c'est que nous avons besoin, pour réfléchir, de nous déconnecter, c'est-à-dire de faire l'expérience, de vivre sans la connexion, pour faire simple, pendant un temps qui peut être court au quotidien, qui peut être régulier. Et notamment, je pense que pour les plus jeunes générations, c'est extrêmement important parce qu'il y a un peu le risque d'une confusion entre la connexion et la vie. Croire qu'au fond, être connecté, c'est être vivant. Être déconnecté, c'est être, sinon mort, du moins un peu moribond, parce que je ne sens plus mon réseau qui est autour de moi. Et ça peut créer même des formes d'angoisse, notamment chez ceux et celles qui n'ont pas expérimenté, en raison de leur jeune âge, ce que c'est que de vivre sans Internet. Alors ça, c'est la tête, mais voilà, il faut que ça passe par le corps et par les émotions pour découvrir qu'on peut être vivant, en relation et heureux, sans être en permanence connecté sur les réseaux sociaux. Et donc, on a besoin de ces temps off, de ces temps de déconnexion, non pas pour dire les écrans, c'est diabolique ou je ne sais quoi, mais pour dire ça ne me prend pas toute la place. Hein, et c'est dans la mesure où je peux prendre du recul par rapport à ce que je vis sans la connexion, sans les écrans, que je vais pouvoir mieux gérer mon rapport aux écrans le reste du temps. Oui, donc, je parle de déconnexion régulière et je parle également de rituels, de pouvoir trouver des rituels réguliers qui nous permettent de trouver le style de vie qui vont nous aider à trouver un rythme à peu près correct. Donc ça peut être une déconnexion particulière qui peut prendre un aspect quotidien par exemple, mais ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel. Et je dis notamment, c'est important que ce ne soit pas simplement personnel, mais aussi collectif. Un collectif dans des familles, par exemple, dans un couple, dans une communauté religieuse, dans un certain nombre de lieux. Vous voyez, on va s'entraider les uns les autres à dire stop et à préserver des moments, des espaces où on va apprendre à valoriser davantage la parole, la recherche intellectuelle, voilà, chercher une information dans notre mémoire et pas simplement tout de suite ce que Google va nous dire, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, il y a vraiment un travail d'entraide fraternelle ou familiale, hein, et de règles à mettre en place, de règles du jeu, pour intégrer à leur juste place ces écrans. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la NACES, c'est-à-dire des exercices, mais qui sont extrêmement importants pour la qualité de notre relation, à la fois personnelle, mais aussi pour notre vie spirituelle. Ça va être très, très important. Donc voilà, ces rituels personnels et collectifs me semblent un exemple assez, assez concret, assez simple, dont il faut faire l'effort à la fois de réfléchir et de mettre en œuvre, mais qui sont extrêmement importants pour créer cet espace de distance et de recul par rapport à cette hyperconnexion, sans laquelle on ne peut pas avancer. Parce que de toute façon, on est toujours pris par la vague. Et surtout, on ne peut pas faire l'expérience, personnellement ou avec d'autres, que on peut vivre un temps, une demi-journée, voire un peu plus, pendant un temps qui convient, sans cette hyperconnexion, et qu'en fait, on ne s'en sort pas trop mal. Vous voyez, par exemple, on n'est pas connecté, il va très bien. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que c'est vraiment très important de se dire, oui, c'est vraiment un peu la pédagogie du carême de l'Église. Nous vivons le temps de carême comme un temps de mise à distance de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, la nourriture ou telle chose, mais dont on se rend compte qu'elle prend trop de place dans notre vie. Donc on se réajuste. Voilà. Et bien, j'ai envie de dire, il faut garder cet esprit un peu de carême, de conversion, de pénitence tout au long de l'année, avec une sorte de mesure, voilà, de tempérance, c'est la vertu de tempérance qu'on pourrait convoquer ici, mais qui est important pour trouver notre quelque chose autour du rythme. Je vais y revenir. Un point qui me semble aussi caractéristique des écrans, c'est leur platitude. Vous voyez cet écran-là, hein, il n'y a pas grand-chose derrière, il doit faire quelques centimètres. Mais c'est un beau symbole de notre temps, hein, de l'évolution d'Internet et des réseaux qui aplatissent beaucoup de choses dans la nuance, dans la réflexion, dans les échanges. Et là, la vie spirituelle est vraiment un grand secours pour nous, parce que la vie spirituelle rime avec profondeur. La spiritualité du Carmel en particulier nous présente la vie intérieure comme un monde, comme un château, dirait Sainte Thérèse. Moi, je parle de plongée sous-marine dans mon livre. C'est-à-dire d'aller découvrir en nous des espaces que nous ne connaissons pas, qui sont des espaces de vie intérieure, déjà au niveau humain, mais aussi de vie divine, puisque Dieu demeure et habite en chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Et voilà, j'aime bien cette opposition, si vous voulez, entre cette platitude des écrans qui, a priori, sont comme cette fenêtre qui va nous ouvrir des mondes, mais en réalité, tout ça est assez inconsistant, alors que nous avons en nous-mêmes une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus grande, beaucoup plus accessible, sans connexion, Wi-Fi, et qui va nous donner une épaisseur, une consistance, une densité humaine et spirituelle, et bien qui va rendre la vie beaucoup plus belle, riche, voilà, que cette fascination que nous pouvons avoir avec ces écrans qui nous promettent de l'évasion. Voilà, l'écran, c'est cette fenêtre qui nous ouvre vers des ailleurs, vers des mondes, et on se dit, ah, ça va être génial, je vais pouvoir enfin décompresser de ma journée difficile dans les transports, etc. Super, donc c'est la mode détente. Et le problème du mode détente, qui en soi n'est pas mauvais, il peut basculer progressivement vers une sorte de décompression ou de divertissement, comme dirait Blaise Pascal, en fait, qui devient une fuite de la réalité. Donc voilà, je pense que vraiment cette vie spirituelle qui nous pousse vers la profondeur est quelque chose d'important, vous voyez, comme une sorte de réenracinement. Vraiment, s'il y a un symbole que je vous propose de retenir, qui est tout simple par rapport à ces questions des écrans, c'est l'image de l'arbre, qui est une image biblique, à laquelle je fais référence dans la conclusion en disant il faut choisir l'enracinement ou l'effondrement de notre monde. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et cette image de l'enracinement qui vient du psaume 1, le premier psaume de la Bible, hein, qui dit l'homme, heureux l'homme qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui porte du fruit en son temps. Et ce que je trouve particulièrement percutant dans cette image de l'arbre aujourd'hui, c'est que l'expérience que nous faisons particulièrement avec les réseaux sociaux numériques depuis Facebook, c'est que nous sommes sursollicités dans nos relations. Et les études scientifiques le prouvent. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux numériques, Facebook, TikTok, Instagram ou autres, nous sommes en relation avec beaucoup plus de gens que dans toute l'histoire de l'humanité. Alors ça passe par le digital, certes. Mais c'est-à-dire que psychiquement, on nous demande, ou par les réseaux professionnels, LinkedIn, etc., on nous demande d'assumer un nombre de relations qui est en fait qui est difficilement soutenable. Voilà. Et donc c'est un peu pour moi l'image des branches de l'arbre. Ouais. On tire sur les branches, on doit être en relation avec un certain nombre de gens, par exemple dans le monde professionnel, animer son réseau, etc., et qu'on est en permanence toujours à cultiver ce réseau, ses amis, ses machins. Ben, faut des ressources pour ça. Faut des ressources psychiques, faut des ressources culturelles, faut des ressources cognitives, etc. Et comment vous voulez faire s'il n'y a pas de racines ? Ben, vous tirez, puis à un moment, l'arbre, bam, il tombe. On appelle ça le burn-out aujourd'hui. Psychique, mais c'est aussi vrai au niveau spirituel. Donc, pour avoir un arbre qui se déploie, c'est-à-dire une vie relationnelle, et je me situe d'abord sur le plan humain, qui est extrêmement et trop sollicité aujourd'hui, il y a une forme de violence même, je pense, autour de ça, eh bien, nous avons besoin de développer cette vie intérieure, l'image des racines, à proportion. Donc, plus je suis sollicité à l'extérieur dans les relations, plus j'ai besoin d'une vie intérieure. Sinon, ça ne peut pas tenir. Je peux faire illusion un certain temps, mais à un moment, ça va s'effondrer. Voilà. Donc, j'ai besoin de cette intériorité habitée, de ces racines, qui vont me donner à la fois l'enracinement de l'art, mais aussi sa souplesse que progressivement l'Esprit Saint va me donner dans la vie spirituelle pour m'adapter aux situations. Oui. Donc, voilà, c'est cette idée de pouvoir affronter cette platitude que créent les écrans. Mais ce n'est pas que les écrans, c'est l'évolution culturelle aussi de notre monde qui aplatit les choses à travers le relativisme et le subjectivisme. Eh bien, j'ai besoin de plonger en moi-même pour trouver du relief, de la nuance, d'affiner mon langage. Et également, et c'est un autre point qui me semble très important, pour accéder à mon désir. Alors ça, Sainte-Thérèse d'Avila insiste beaucoup dessus, disant qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans désir et sans grand désir. C'est vraiment un aspect important de son chemin. Or, ce qui est vraiment difficile aujourd'hui, alors c'est lié à la société de consommation en général, mais les écrans l'amplifient beaucoup, c'est que cette sursollicitation permanente à travers ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui va activer en nous, au niveau hormonal, toujours le besoin d'avoir des pouces sur les réseaux ou des cœurs ou je ne sais quoi pour se sentir important. En fait, ça crée de la confusion dans nos désirs. C'est-à-dire que nous ne faisons plus de différence entre des désirs profonds qui nous habitent depuis très loin et puis des envies superficielles qui sont créées par la culture contemporaine, par le groupe des copains, par tel influenceur sur YouTube. J'étais dans le train tout à l'heure en venant de Paris, il y avait un groupe d'influenceurs qui venait à Toulouse, je ne sais pas ce qu'ils venaient faire, mais c'était marrant. Oui, donc on influence, mais donc du coup le risque c'est que je vais vouloir imiter ce groupe-là, qui en soi est intéressant, mais voilà, j'aplatis les désirs, et donc aplatissant les désirs, je ne fais plus la différence entre un désir profond et des envies superficielles. Et du coup, je suis dans la confusion dans ma vie spirituelle et cela m'est très difficile d'aller m'appuyer sur un désir profond, qui est le désir de Dieu, par exemple, qui est essentiel dans la vie spirituelle, mais qui, en fait, est comme camouflé par une somme de désirs plus superficiels et je n'ai pas accès à ce désir de Dieu. Et là, il y a un drame. C'est qu'au fond, voilà, je vis comme si ce désir de Dieu n'était pas en moi. Donc je vis ailleurs, quoi. Je vis en dehors de moi, je vis en dehors de cet appel profond. Et pour accéder de nouveau à ce désir de Dieu, eh bien, il est nécessaire de faire un travail d'ascèse, d'exercice spirituel, où je mets à distance un certain nombre de choses, et ici particulièrement les écrans, pour créer un espace vide. On n'aime pas le vide aujourd'hui, mais on a besoin de cet espace vide qui va laisser se décanter en nous la densité des désirs. J'utilise l'image de l'huile parce qu'une partie de ma famille, on est originaire d'Aix-en-Provence et on fabrique de l'huile d'olive. Et donc, dans le processus de fabrication de l'huile d'olive, il y a la décantation de l'huile et de l'eau, qui se décante entre la densité de l'huile et de l'eau, et il faut du temps pour progressivement la densité se sépare. Voilà. Donc il faut être patient. Et par rapport à nos désirs, c'est la même chose. Vous voyez, donc cette histoire de platitude des écrans et de profondeur du désir, hein, elle va dans ce sens que nous avons besoin d'aller chercher en nous ce désir profond, qui est le lieu de la vie, le lieu de la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie de Dieu, et qui va nous rendre davantage libres et forts pour pouvoir vivre une vie connectée avec mesure. Mais si je ne fais pas tout ce détour de distance, de déconnexion pour accéder à ça, je suis un peu un zombie, quoi. Ou une marionnette, ou voilà, je réponds au circuit de la récompense en permanence sur les écrans. Donc pour moi, vie spirituelle est associée à la profondeur, voilà. Et donc c'est s'arracher à cette platitude des écrans. Vous voyez que ce que je dis là implique quelque chose qui est de l'ordre de l'effort. Alors, j'y consacre une partie d'un chapitre, parce que je pense que Sainte-Thérèse d'Avila peut nous aider aussi là-dessus, mais évidemment c'est une grande question, notamment dans l'éducation aujourd'hui, que ce soit l'éducation nationale, mais aussi dans les familles. Pourquoi faut-il faire des efforts, notamment dans l'éducation, dans la rédaction des travaux, dans l'accès à l'information? Et là, je pense que d'une part, il y a toute une sagesse philosophique qui pourrait nous aider à y répondre, mais il y a également aussi toute une sagesse spirituelle. Il suffit de regarder dans le Nouveau Testament, une vertu particulièrement importante dans la tradition chrétienne, c'est la vertu d'endurance. D'endurance dans le Nouveau Testament, saint Paul en parle beaucoup, et on peut faire une bonne transposition par rapport au sport aujourd'hui. Une vie chrétienne, une vie humaine a besoin d'endurance, parce que c'est justement cette endurance-là qui nous fait entrer dans la profondeur de notre être, qui nous permet de descendre en nous à un niveau plus profond que les aspects plus superficiels. Je cite saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 9. « Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix, alors vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. » Courir de manière à l'emporter, c'est-à-dire la discipline. Et c'est frappant de voir aujourd'hui à quel point les gens, beaucoup de gens investissent un temps, une énergie, voire de l'argent dans le sport. Et en un sens, légitimement, parce qu'on a besoin de retrouver un contact avec notre corps qui est souvent peu présent dans les écrans. Mais j'ai envie de dire, c'est important que cet effort qui soit utilisé ici soit également présent dans notre vie spirituelle. Puisse aller chercher cet effort d'aller creuser en nous ce désir de Dieu. Alors pourquoi est-ce que c'est important cet effort? Parce que d'une part, ce dépassement de soi fait partie de l'expérience humaine. Pour grandir humainement, nous avons besoin de nous dépasser. Mais il est difficile de se dépasser si on n'est pas motivé. Motivé, hein, souvent des refrains qui reviennent sur la motivation, je ne suis pas motivé. Alors, qu'est-ce que c'est motivé? C'est justement être mu dans le mouvement. Et qu'est-ce que nous dit là, au fond, disent les grands pédagogues, et en particulier Sainte-Thérèse d'Avila, quelque chose de très, très simple. Pour être motivé, il faut deux choses au moins. Il faut un désir fort. Le désir fort, c'est l'affectivité qui va aller mobiliser toute mon énergie de façon forte. Donc il faut que je puisse avoir accès à ces énergies profondes. Mais si ces énergies, elles sont mangées, elles sont bouffées par plein de trucs dans ma tête, par plein de choses à faire, par plein de mes écrans, mes trois séries que je dois voir en ce moment, ou je ne sais quoi, comment voulez-vous mobiliser cette énergie? Elle n'est pas disponible. Donc, première chose, mobiliser un désir fort. Deuxièmement, avoir en tête un but qui est clair. Dans le sport, pour arriver à mobiliser un effort, il faut que je vise la ligne d'arrivée, par exemple, dans la course. Il faut que je vise telle hauteur pour sauter en saut en hauteur et vaincre le record du monde. Eh bien, dans la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est très important de nous rappeler le but de notre vie, que nous savons intellectuellement. Mais en quoi il est-il opératoire dans nos vies concrètes? Est-ce que nous sommes convaincus que notre vie, elle est orientée vers la vie éternelle, vers la sainteté? et que de tous nos efforts doivent être orientés à partir de là. Et le grand problème, nous disent les saints, c'est quand j'oublie le but. Quand au fond la conscience du but de ma vie, il s'effiloche. Bah oui, parce que les contrariétés, les difficultés, les écrans, etc., prennent trop de place. Bah, du coup, quand je perds de vue le but, ma motivation baisse. Donc j'ai besoin à la fois de clarté dans l'intelligence et d'investissement dans l'affectivité. Or justement, vous voyez bien que cette hyperconnexion, quand elle me touche, en tout cas dans le quotidien de façon excessive, elle mange en moi ces espaces de réflexion, de recul, qui permettent de me remettre, par exemple, dans l'expérience d'une retraite, vers le but de notre vie, et de reprendre la course en me disant « voilà le but que je désire vivre ». Vous voyez, donc tout ce travail qu'il y a à faire dans notre rapport à l'effort est particulièrement important pour retrouver une motivation dans le sens de la vie chrétienne. Et c'est frappant à quel point aujourd'hui, les gens ne sont pas motivés, ont du mal à retrouver un sens de la vie. Ça devient une banalité que de le dire. Mais qu'est-ce que c'est de ne pas avoir sens de la vie? Ça veut dire je ne sais pas où diriger mes pas et je ne sais pas où mettre mes énergies. Donc je vais me battre pour des choses qui sont dérisoires, pour tel poste dans ma boîte, pour telle histoire en paroisse, pour telle ou telle petite chose, parce que j'ai que ça à faire. Je perds de vue le vrai but de notre vie. Donc ce sont des enjeux qui sont vraiment importants. Voilà. Et pour ça, nous avons besoin de retrouver la profondeur en nous et de la clarté, d'où la formation d'ailleurs de l'intelligence. Alors, formation d'intelligence, Internet et les écrans peuvent nous aider. Il y a énormément de ressources qui existent sur Internet. C'est l'Institut Jean de la Croix, le frère Armand n'est pas là, mais on peut faire un peu de pub. Les Dominicains, il y a énormément de ressources. Encore faut-il aller les chercher, hein, et pas passer son temps à enfiler des vidéos sur TikTok ou je ne sais quoi, ou des séries sans réflexion qui vont venir manger en moi toute ma capacité réflexive. Donc c'est à moi aussi d'organiser mon rapport à Internet pour trouver des temps de détente, mais aussi des temps de réflexion et de formation qui vont aiguiser mon regard critique et éveiller ce qui est important pour moi. Un autre aspect que je traite dans l'ouvrage, qui est quelque chose d'assez global et important, c'est le rapport au corps. C'est une question très large, très importante pour moi en tout cas. Ce n'est pas que les écrans, c'est une évolution aussi du monde du travail et puis de la culture en l'espace d'un siècle, disons. Nous travaillons de moins en moins avec notre corps. Il suffit de voir l'évolution de la place du secteur primaire et du secteur secondaire dans l'économie en l'espace de quelques décennies. Donc, énormément de gens travaillent derrière un écran, travaillent avec leurs doigts et leurs yeux, principalement. Et donc nous vivons, au fond, un rapport à notre corps qui est de plus en plus pauvre. Pauvre dans l'expérience des sens, en particulier. L'expérience du toucher. À force de toucher simplement un écran de verre, là, vous voyez, notre toucher, il s'appauvrit considérablement. On est beaucoup moins habitué à toucher des textures. Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose d'une expérience humaine toute simple, banale, qui se perd à travers ça. Mais de manière plus générale, mon rapport à mon propre corps risque de s'appauvrir grandement. Donc à la fois à mon corps, mais je dirais aussi au monde. À force de regarder le monde à travers un écran, ma perception du monde est grandement appauvrie. Parce qu'au lieu de faire l'expérience directe du monde par mes cinq sens, de façon un peu concrète et quotidienne, je perçois le monde beaucoup par la vue. C'est qu'une perception très, très, très limitée du monde. Mais c'est surtout que même par rapport à mon propre corps, l'expérience que j'ai de mon propre corps est très limitée. Et qu'est-ce que ça a conduit, d'un point de vue de l'évolution un peu de la pensée et puis des images un peu banales qu'on peut avoir du corps, c'est qu'on revient aujourd'hui à un regard sur notre corps comme ce qu'on pourrait appeler un instrument. C'est-à-dire mon corps, ce n'est pas moi, c'est une sorte de chose, une sorte d'enveloppe, une blouse de chair. avec laquelle je peux faire ce que je veux. Voilà, donc j'ai un corps, j'en fais ce que je veux. C'est mon corps d'ailleurs, c'est droit, j'ai le droit de faire, vous voyez, toutes les questions que ça peut poser sur un certain nombre de sujets de bioéthique notamment, mais pas seulement. Et comme si, voilà, ce corps-là n'était pas moi. Et donc là, il y a une espèce de disjonction de la personne qui est quand même tout à fait problématique. On voit notamment sur les questions de genre, mais c'est beaucoup plus large que ça, sur le rapport aussi au corps âgé, au corps souffrant. Et ce monde, on va dire, connecté, ne nous aide pas beaucoup là-dessus. Parce que nous sommes moins reliés à notre expérience corporelle concrète. Et là, la vie spirituelle, et la vie chrétienne et catholique en particulier, est d'une grande ressource. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, elle nous rappelle que le Verbe s'est fait chair. Au centre de notre foi, c'est le mystère de l'incarnation, que Dieu a donc assumé un corps. C'est quand même inouï dans l'histoire des religions d'aller jusque-là. Un Dieu qui assume corporellement, et on sait bien à quel point il y a eu beaucoup de variantes dans la foi chrétienne, d'hérésie qui avait du mal à accepter ça tellement c'était bizarre, scandaleux. Eh bien, nous assumons profondément cette vérité-là. Et ça se traduit dans la vie spirituelle par le fait que nous, on accède à Dieu par les sacrements. Sacrement, ça passe par le corps. C'est tout simple de le dire. Mais ouais, donc Dieu vient me nourrir, Dieu vient me toucher par mon corps. Voilà, c'est pas du Bluetooth. C'est pas du réseau, c'est pas je me connecte à Dieu, vous voyez, quand il y a beaucoup d'approches aussi spirituelles aujourd'hui, c'est, moi je suis en relation avec Dieu en direct, en live, super, donc j'ai pas besoin de mon corps au fond. Donc c'est à la fois mon corps personnel, mais c'est le corps que nous formons qui est l'Église. C'est-à-dire qu'effectivement j'accède pas à Dieu tout seul, j'ai besoin aussi des autres pour aller vers Dieu. Vous êtes le corps de Christ, dit saint Paul, et particulièrement les membres les plus souffrants de ce corps. Les personnes âgées, les personnes en précarité auxquelles le Seigneur s'identifie. Et donc toute cette dimension corporelle, à la fois des sacrements en eux-mêmes, mais qu'est l'Église, eh bien nous dit ce que c'est que cette foi chrétienne qui nous aide du coup à retrouver un rapport au corps qui soit un peu plus incarné. Et même dans la prière personnelle, la prière d'oraison par exemple, la prière, on peut penser à la prière du cœur ou la prière de Jésus dans la tradition orientale chrétienne, eh bien, il y a toute une manière aussi, donc je pense que c'est très important aujourd'hui, de retrouver une place pour notre corps dans notre vie de prière personnelle. Comment est-ce que je prie concrètement, corporellement, quand je prie, quelle est la position que j'utilise, quel est mon rapport à mon souffle, à ma respiration? Est-ce que je prie avec ma tête, avec mes idées, ou est-ce que j'habite tout mon être, y compris mon corps? Là-dessus, on a besoin vraiment de retrouver une forme de sagesse de vie. Non, je prie avec tout ce que je suis, c'est-à-dire voilà, avec mon cœur, bien sûr, mais aussi avec mon corps et ma posture dans la liturgie, mais aussi dans la prière personnelle, extrêmement importante pour être un devant Dieu et pas être simplement une partie de nous-mêmes. Donc vous voyez que du coup, cette vie spirituelle chrétienne, elle nous aide à rééquilibrer ce côté très désincarnant, si je puis dire, de cette vie hyper connectée. Alors, ce qui veut dire que par ailleurs, j'ai aussi besoin d'autres éléments, la place, malgré tout, de l'exercice, du sport, enfin, tout ce qui me réancre dans la matière, hein, dans les sens, est aussi important. Et j'ai envie de dire, plus je suis connecté, plus j'ai besoin aussi de retrouver un ancrage par la vie spirituelle, mais aussi par d'autres activités. Je pense que l'exemple du scoutisme est un très bon exemple de lieu. Pourquoi est-ce que c'est un lieu qui a tellement de succès aujourd'hui au-delà des questions religieuses? Parce qu'on voit bien que le rapport à la nature, le rapport au collectif, le rapport à la matière fait respirer quand même et retrouver une forme de bon sens par rapport à ce qu'on peut vivre par ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un point qui me semble important, le rapport au corps. Je consacre également un chapitre sur la place de l'évangélisation, parce que, évidemment, les écrans et Internet ne sont pas simplement des lieux qui seraient des menaces qui devraient nous inciter à nous retirer dans nos grottes, ou nos couvents, ou je ne sais où, mais aussi on a besoin que la parole de Dieu soit annoncée sur Internet, sur les différents réseaux. les chrétiens évangéliques étaient particulièrement en avance là-dessus. Et, voilà, comme c'est des questions auxquelles je m'intéresse depuis un certain nombre d'années, j'ai été frappé quand même par l'évolution, pour le coup positive, de l'Église, de notre Église catholique là-dessus. J'ai suivi une formation il y a plus de 10 ans à la Conférence des évêques de France, avec des webmasters de différents sites de diocèse. Et ils avaient fait le constat quand même un peu, décevant et même scandaleux, que lorsqu'on tapait à l'époque sur Internet le mot Jésus, c'était d'abord des sites musulmans qui venaient en premier. C'est quand même hallucinant, quoi. Éventuellement des sites évangéliques, mais alors sites catholiques, on allait voir très loin. Et donc là, ils ont décidé de lancer un site qui s'appelle Rencontrer Jésus, qui a fait remonter dans les moteurs de recherche. Oui. Mais ces genres de choses, voilà. Donc si on déserte le monde et lieu d'évangélisation, d'autres vont parler en notre nom. Donc il est très important, on le voit à travers les influenceurs chrétiens aujourd'hui, hein, mais d'autres, de ne pas déserter les lieux d'annonce, mais de savoir comment est-ce qu'on y va. Et on n'y va pas seul. On a besoin d'être ensemble, c'est-à-dire d'être en communauté de prière, d'enracinement. Sinon, on voit bien ce que ça peut donner, des superstars, des gourous qui créent des communautés. Et puis un beau jour, c'est un combat spirituel, évidemment. L'adversaire s'en sert, il fait briller. Et puis l'orgueil joue là-dessus, ou des fans un peu dangereux, et badaboum. Et puis on dit « Ah, mais un tel qui était formidable, il est devenu terrible. » Voilà, c'est l'idole qui devient vraiment le diable en personne, ce qui est un tout petit peu simpliste. Mais ça prouve à quel point nous avons besoin, dans l'évangélisation sur Internet, d'être ensemble, voilà, d'être porté par l'Église avec les médiations, avec la dimension de l'obéissance qui est importante aussi. Mais on voit bien aussi, je pense au frère Paul Adrien entre autres, mais il y en a d'autres qui disent à quel point, sur les réseaux, les jeunes en particulier attendent une parole. Le nombre de baptêmes qui arrivent, notamment par les réseaux, par les vidéos sur YouTube, d'un certain nombre de personnes d'influence sont décisives. Donc évidemment, il faut y être présent, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment, et avec un discernement et une vie intérieure qui permet de vivre cela, et avec un certain nombre de codes culturels qui s'apprennent et qui ne s'improvisent pas. J'en viens un peu à ma dernière partie, pour dire au fond, vous voyez, on a essayé de trouver une sorte de tâtonnement ou d'apprivoisement de notre rapport au numérique et aux écrans, qui est caractérisé par plusieurs points. Premier point, c'est le rapport à la limite. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand même, on nous propose quand même beaucoup un monde qui est, on qualifie souvent de liquide, de fluide. Tout doit se passer sans heurts et sans obstacles, et sans limite. Alors, abonnement illimité, immergez-vous dans telle ou telle chose. Sauf qu'en fait, la réalité humaine, elle est fondamentalement marquée par la limite. Et notre corps nous le rappelle fondamentalement. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça nous évite de tomber dans ce qu'on appelle la toute-puissance de celui ou celle qui pense qu'il est le centre du monde et que tout lui est dû. Et puis, petite question, c'est pas une petite question, mais petit point très important qui commence un peu à émerger en ce moment, mais c'est quand même très faible, c'est aussi la contradiction quand même grandissante entre l'apologie des écrans d'un côté, de l'IA par exemple, l'intelligence artificielle générative, et les questions écologiques. Et là, on voit bien, c'est vrai, rien n'est neutre sur Internet. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de conséquences. Toute activité sur Internet a des conséquences sur des serveurs qui sont stockés et qui participent au réchauffement de la planète. C'est pas ça pour qu'on rende une sorte de culpabilité. Mais avec l'intelligence artificielle, on va aller x3 dans les serveurs dans les prochaines années. Donc on a deux discours qui sont complètement antinomiques. D'un côté, on développe le numérique. Et d'un autre côté, réchauffement climatique, pas bien. Et en fait, ça ne se croise pas. Donc il faut aussi être responsable soi-même sur le fait que regarder des vidéos en permanence sur YouTube et sur TikTok, etc., ce n'est pas neutre d'un point de vue de l'électricité, d'un point de vue de la consommation, du réchauffement climatique. C'est un point, vous voyez. Et souvent, on ne croise pas les choses. Donc ça nous appelle à une forme de responsabilité morale et spirituelle sur un usage modéré, intelligent, hein, d'Internet. Mais en tout cas, on peut se renseigner là-dessus pour savoir envoyer un email, quelles conséquences ça a. C'est dérisoire, mais c'est pas neutre. Parce que comme on est des consommateurs aujourd'hui, on croit que tout est gratuit et que tout est neutre. Ben non, c'est un mensonge, c'est une illusion. Donc rapport aux limites, et limites de la planète en particulier. L'enjeu au fond, je le dis dans le dernier chapitre, c'est trouver un peu son style de vie numérique, c'est-à-dire de pouvoir évaluer en fonction de mon état de vie, là où j'en suis d'un niveau professionnel ou familial, comment je peux apprendre à ordonner les choses dans ma vie, à trouver une juste place pour les écrans, en intégrant avec discernement, en apprenant à être précis sur les mots que j'utilise. Je prends un exemple par rapport à l'intelligence artificielle générative. Vous voyez bien que ça commence à prendre de plus en plus de place partout, avec des bonnes choses et d'autres qui le sont moins. Un point qui est un petit peu inquiétant, c'est le rapport au, comment dire, à la dimension de relation. Quand on parle de relation avec l'IA, c'est hautement problématique. Comme si l'IA était une personne. Non, on peut avoir des interactions avec une IA. Et je le dis parce que pour des adolescents qui vont découvrir dans ChatGPT ou autre, ou Mistral ou je ne sais quoi, leur meilleur ami, vous êtes beaucoup mieux avec celui qui pense comme vous qu'avec votre copain de classe qui est sympa 80% du temps et moins. Et on prépare des gens qui vont finir seuls. Parce qu'ils auront de plus en plus de difficultés à accepter l'autre qui n'est pas comme eux. Donc vous voyez, parler d'interaction avec une machine ou de relation, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je fais attention à cet exemple-là pour moi et quand j'écoute les choses? Donc le langage, il véhicule des mythes. Et on voit bien que il y a une sorte d'anthropomorphisme, pour employer un gros mot, hein, c'est que je vais attribuer à l'IA, l'intelligence artificielle générative, des attributs humains. Mais quand je fais ça, je suis en train de faire glisser les choses, et notamment sur des personnes plus fragiles dans les relations, de créer des personnes qui auront de plus en plus de mal à entrer en relation avec les autres. Donc là, le travail sur le langage est aussi quelque chose d'important. Mais vous voyez qu'on est de l'ordre là du cheminement, à la fois personnel et collectif, de prendre le temps de réfléchir, de penser à ce que nous voulons vivre et de ne pas être dans les recettes toutes simples. Mais ce que je dis dans cet ouvrage, et je conclue par là, c'est que nous avons vraiment besoin, vous voyez, d'une vie profonde, d'une vie avec le Seigneur, d'une vie de sagesse aussi, de sagesse spirituelle, avec les saints du Carmel, pour découvrir où est notre source de vie. Soit notre source de vie, elle est dans les écrans, on est comme des insectes qui vont coller sur la lumière, parce que c'est quand même fascinant, cette lumière qui sort de cet écran plat. Soit je découvre qu'en fait, la source de vie, elle est en moi. Et c'est parce que je sais que je suis habité par cette source de vie, que je suis irrigué de l'intérieur, que je suis bien, que je suis en place, que je vais pouvoir entrer en relation via les écrans avec d'autres. Mais je ne vais pas tomber dans l'idolâtrie d'attribuer à cet outil, formidable à bien des égards, un pouvoir qu'il n'a pas de me rendre heureux, par exemple, ou de me rendre brillant ou interconnecté. Donc j'ai besoin de cette vie spirituelle, et nous avons la grâce et le cadeau inestimable dans notre foi chrétienne, par la grâce du baptême, d'avoir accès à tous ces biens. Et donc ce que je dis, c'est qu'il s'agit de nous de le vivre, d'être reconnaissant au Seigneur pour ce cadeau, de le vivre à fond pour être des chrétiens vraiment enracinés, établis, et ensuite de pouvoir le transmettre à tellement de gens qui, en fait, seraient très heureux de savoir que ça existe et que c'est aussi pour eux. Voilà, et que, justement, les écrans permettent de le communiquer aussi.
Vous venez d'écouter une conférence enregistrée le 2 octobre 2025 avec le frère Jean-Alexandre, d'après le livre « Dieu crève l'écran ». Une conférence enregistrée exactement au couvent des Carmes de Toulouse, avenue Jean Rieux.